Dans mon exposé, il y aura aussi toute une partie de méthodologie, c'est-à-dire comment on essaye de donner des résultats sur la France et sur l'Europe, et quelles sont les incertitudes liées à ces méthodes qu'on appelle souvent méthodes de régionalisation. Voilà, bon, je vais vous expliquer tout ça. Alors, je pars du GIEC. Donc, cette figure, je ne sais pas si vous l'avez vue, parce que depuis l'IPCC 2007, elle a souvent disparu, parce que c'est une qui date de 2001. Mais je l'aime bien quand même. Et qui fait le bilan, en gros, de l'élévation de température dans un scénario A2 à la fin du XXIe siècle. Donc, il y a des gens qui se sont amusés à découper le monde en différentes régions. Donc, c'est la première manière la plus simple d'essayer de donner des informations à l'échelle régionale. Donc, ce qu'on voit sur ce graphe, si on zoome par exemple sur une région, celle de la Méditerranée, alors bon, on voit que la France est coupée dans ce découpage-là entre l'Europe du Nord et puis la Méditerranée. En fait, ce que ça veut dire, ces petits symboles, c'est qu'on pense que dans la saison hivernale, décembre, janvier, février, on aura un réchauffement plus important que la normale sur cette zone-là qu'ailleurs sur la planète. Et pour l'été, un réchauffement encore plus important. Donc ça traduit entre autres qu'il y a un accord entre les différents modèles du GIEC dans ce domaine-là. Si on essaye de voir la même chose pour les précipitations, on voit qu'on a aussi, encore une fois, là en Europe, une région intéressante. Les différents modèles s'accordent à peu près. Ils disent tous qu'on a une augmentation des précipitations en hiver. Donc pour l'été, ils pensent plutôt une diminution pour le nord de l'Europe. Et sur la zone méditerranée, c'est la seule région de la planète où tous les modèles s'accordent pour dire que, a priori, on devrait avoir une forte diminution des précipitations. Donc ça, c'est pour dire que à l'échelle globale, on a un signal par les différents modèles du GIEC. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'essayer de voir si on peut zoomer dedans. Et une des choses à regarder déjà, c'est est-ce que tous les modèles sont d'accord à l'échelle globale? Parce que s'ils ne sont pas d'accord, comme par exemple sur les régions de mousson, ou toutes les régions où il y a des cases grises, eh bien, ça veut dire que si on veut zoomer un modèle, on n'aura pas une réponse. On n'aura pas la réponse, je veux dire, on aura une réponse. Et donc, il faudrait zoomer tous les modèles du GIEC pour avoir une réponse à l'échelle régionale. Donc c'est déjà intéressant de s'intéresser à des régions où les différents modèles sont à peu près d'accord entre eux. Bon, en 2007, on a plus de modèles, on a 21 modèles. Alors, je vous ai mis toutes les cartes, c'est pas la peine d'essayer de les regarder. Et je vous ai mis les moyennes en bas, mais c'est pas plus la peine de les regarder non plus. Mais bon, en gros, ce qu'on voit ici quand on les regarde un peu plus près quand même, c'est qu'on a des caractéristiques similaires, c'est-à-dire un réchauffement plus important sur continent que sur océan, un réchauffement, donc là c'est des moyennes annuelles, qui est un petit peu plus importante plutôt dans l'est ou dans le sud de l'Europe. Et puis, au niveau des précipes, c'est plus clair parce que là, on a vraiment un pattern de couleurs en deux morceaux très distincts, augmentation des précipitations en vert et diminution en brun. Donc là, tous les modèles sont d'accord pour dire qu'on a une diminution au sud et puis une augmentation au nord. Et donc évidemment, on retrouve ça dans la moyenne. Bon, si on zoome sur la moyenne et qu'on sépare moyenne annuelle, hiver, été, et puis réponse en température, réponse en précipitation. Et alors ça, c'est une manière de mesurer l'accord des modèles sur les précipitations. C'est le nombre de modèles qui disent qu'on a une augmentation de précipitations sur un carré donné. Bon, et ben là, on voit qu'en gros, qu'en Méditerranée, on a entre 1 et 2 modèles qui disent qu'il y a une augmentation des pluies. Donc en gros, ils sont tous d'accord pour un assèchement. Donc on voit cette structure-là qui ressort assez nettement. En hiver, tous les modèles, enfin, l'ensemble des modèles sont d'accord pour dire que le réchauffement sera plus important à l'est de l'Europe ou à l'est de la France, par exemple, qu'en France. Et puis en été, c'est plutôt un gradient nord-sud. Alors ça, c'est lié à des phénomènes physiques, donc l'influence de l'océan ici qui tempère un petit peu le réchauffement, et puis une rétroaction de la neige sur cette partie-là. Et en été, c'est plutôt une rétroaction par rapport à la physique de l'humidité du sol. En gros, quand le sol s'assèche, il n'a plus d'eau et donc il n'a plus les capacités de se refroidir par évaporation. Et donc on augmente, on renforce le réchauffement en été dans cette zone-là. Voilà, alors ça c'est une belle image. Donc ce qu'on peut faire avec les modèles du GIEC, c'est des tableaux comme ça. Donc c'est pareil, je ne vais pas les décrire. Mais en gros, on est capable, pour les différentes saisons, température et précipitation, de donner une gamme d'erreurs et d'incertitudes très large pour les différentes régions de la planète. Et donc pour l'Europe ou la Méditerranée, comme je l'ai donné ici, on a cette gamme d'incertitudes. On peut la regarder région par région. Donc mon exposé pourrait s'arrêter là et dire, OK, bon, pour le réchauffement en France ou en Europe, voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Et bon, en gros, c'est un petit peu ce qu'on vous a expliqué dans certains des exposés avant. Mais il y a quand même des problèmes. Donc je vais essayer d'aborder ici la notion de régionalisation. C'est que les modèles du GIEC peuvent d'accord nous donner des informations au niveau régional. Ils permettent de couvrir à peu près toute la gamme d'incertitudes. Et l'avantage, c'est que l'Europe est plutôt une région de bon accord entre les différents modèles du GIEC. Mais déjà, ces modèles ont une résolution relativement faible, donc on va revenir là-dessus avec des exemples plus imagés. Il y a peu de chances qu'ils représentent tous les processus physiques du climat régional. Si par exemple, imaginons qu'on veut représenter le climat méditerranéen, ben, il nous faut du Mistral, et s'il nous faut du Mistral, il nous faut une vallée du Rhône. Bon, ben, dans ces modèles-là, on va voir qu'il n'y a pas de vallée du Rhône. Donc il y a certains éléments régionaux qu'on ne va pas avoir dans ces modèles du GIEC, et donc on peut avoir des doutes sur ce qu'ils nous annoncent régionalement parlant. D'ailleurs, on essaye de ne pas les utiliser de manière très régionale. Ensuite, ils représentent assez mal les extrêmes parce qu'il leur manque des processus physiques d'interactions qui vont créer ces extrêmes de température froide ou de précipitations intenses. Et puis ensuite, quand on voit par exemple les résultats montrés sur la neige juste avant, ils ont une relation trop faible pour fournir en données tous les gens qui veulent faire de l'étude d'impact du changement climatique. Donc que ce soit en agriculture, tourisme, en neige, économie, océanographie côtière, santé. Donc c'est la plupart des communautés qui travaillent sur ces domaines-là travaillent sur une région particulière et ont donc besoin de données à haute résolution. Et donc la régionalisation répond à des questions scientifiques, mais aussi à des questions de lien avec le reste de la communauté scientifique. Donc on a donc besoin de régionaliser le signal des modèles du GIEC. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de zoomer, mais intelligemment, pas juste en prenant une loupe, c'est-à-dire en utilisant de la physique. Et on a, dans ce domaine-là, clairement différentes méthodes de régionalisation, que je vais essayer de vous décrire rapidement, qui ont chacune des défauts et des qualités. Et par contre, il faut quand même voir que c'est encore une branche très jeune de la recherche en climat. Et donc, on se pose encore pas mal de questions. Et une des questions fondamentales, c'est celle des incertitudes au niveau régional. Il faut bien voir que, OK, on va peut-être avoir plus d'informations au niveau de la France ou de l'Europe grâce à ces méthodes de régionalisation, mais on rajoute des sources d'incertitudes, on n'en enlève pas. J'essaierai d'en parler un peu plus tard. Alors, pourquoi régionaliser? Parce que la réalité, quand on ressort des modèles, elle ressemble à ça. Donc ça, c'est une carte du relief en Méditerranée et aussi de la topographie sous-marine. Et puis ça, c'est un schéma un petit peu simplifié qui représente toutes les interactions du climat global ou local avec le climat France et Méditerranée. Donc on a la cellule à lait dont on a dû vous parler, la NAO, les moussons indiennes et africaines qui vont interagir avec le climat européen. Et donc, en régionalisation, ce qu'on va essayer de faire, c'est de représenter ça, c'est-à-dire la réalité très haute résolution, ou en tout cas la plus haute résolution possible de ce genre de relief, de vallée, ici donc la vallée du Rhône dont je parlais tout à l'heure qui nous permet d'avoir un Mistral, mais on a exactement le même type de configuration géographique dans différents endroits de cette région méditerranéenne ou du sud-est de la France. Et on a donc, il faut représenter ça, et en même temps il ne faut pas qu'on se coupe des interactions de l'échelle du climat global avec le climat local. Donc là est le challenge. Alors pourquoi régionaliser? Parce qu'un modèle, un GCM, donc un modèle global, en fait, une carte de changement de température, ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est relativement imprécis. Donc en gros, là, c'est un exemple de modèle type GIEC à 300 km de résolution, même si maintenant, dans le GIEC 2007, on a des résolutions un petit peu plus élevées. Et à côté, je vous ai mis un RCM, donc Regional Climate Model, qui a plutôt une résolution de l'ordre de 50 km. Et donc voilà à quoi ressemblent les deux images. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il y a dans le GIEC, même si on peut montrer des cartes relativement filtrées, la réalité, elle est là. C'est-à-dire en France, il y a 9 points de grille, pas plus. Donc, sachant qu'il faut à peu près 2 points de grille pour représenter un phénomène, ben, on ne représente pas grand-chose. Et donc, quand on passe à un RCM à 50 km, un modèle qui est un peu plus zoomé, donc je vais vous montrer comment on fait, on a des structures où on retrouve nos reliefs, on retrouve nos continents, parce qu'ici, ben, il n'y a pas d'Italie du tout, on retrouve des îles, des choses comme ça. Donc là, j'ai un petit peu amélioré le GIEC, disons que ça c'était un modèle du GIEC de base et ça c'est un petit peu ce qu'on pourrait faire de meilleur avec une résolution de l'ordre de 150 km et j'ai tracé le relief de l'Europe. Donc on voit que là, clairement, il y a des climats européens qui vont nous manquer. Quoi. Et des climats en France qui vont nous manquer avec ce type de relief, entre autres sans vallée du Rhône. Il y a un point là par point de grille du modèle. Et ça c'est le relief qu'on a à 50 km. Alors, on pourrait dire que c'est pas grand chose, c'est un facteur 3. Mais on commence quand même à voir apparaître des îles, donc la Corse revient avec même des points de relief. Les Apennins en Italie arrivent, la Crète arrive, on a une vallée du Rhône, donc on a quand même une séparation pas extrêmement nette, mais qui existe entre Alpes et Massif central. Donc à l'échelle de la France et du climat de l'Europe influencée par les reliefs, donc en gros toute cette partie-là et puis la partie scandinave et aussi un petit peu l'Angleterre, on commence à avoir des reliefs qui apparaissent et on peut penser que les forçages liés à ces reliefs ou liés au gradient thermaire ou ce genre de contraintes de surface vont apparaître dans la physique de nos modèles régionaux. Pourquoi régionaliser? Autre exemple, voilà la manière dont les pluies en Angleterre sont représentées dans un modèle à 300 km de résolution pour une période de climat présent, dans un modèle à 50 km, plus c'est bleu foncé, plus il pleut, dans un modèle à 25 km et puis dans les observations. Donc si on veut croire un petit peu à ce qu'on dit sur le changement climatique en régional, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays par exemple, c'est-à-dire l'échelle à laquelle les gens qui travaillent sur les impacts vont travailler, eh bien, on a tendance quand même à être plus content avec ce genre de figure-là qu'avec celle-là. Voilà. Donc ça c'est sur la structure spatiale des précipitations. On peut parler des extrêmes aussi, donc là c'est un exemple sur les extrêmes à l'échelle quotidienne des pluies sur les Alpes. Les observations sont en bleu, donc c'est par classe de précipitations. Donc inférieur à 0,1 mm par jour, supérieur à 10 mm par jour, Non, pardon, inférieur à... c'est inférieur à 10, là, il y a une inversion de coefficient. Supérieur à 10, supérieur à 20, supérieur à 30, supérieur à 50. Donc on va vers les extrêmes de précipitation petit à petit. Les observations sont en bleu et le modèle global est en rouge. En gros, on voit qu'à partir d'une certaine classe de température, il n'arrive plus à suivre. Parce que juste, il n'a pas les forçages physiques nécessaires à créer ces précipitations extrêmes qui peuvent être de type orageuse ou liées à l'orographie. Et puis le modèle régional, donc le RCM, il est, lui, un peu meilleur quand même sur la suite des précipitations. Alors après, si je continue la courbe, je ne veux pas dire que le modèle régional est extrêmement parfait. Il faudrait des résolutions de l'ordre du kilomètre pour avoir une distribution des pluies qui va vraiment beaucoup plus loin, 100, 100, 200 mm par jour, comme on peut voir dans le sud-est de la France de temps en temps. Mais en gros, le modèle régional va quand même améliorer un petit peu la physique du climat sur une région donnée. Alors des techniques, il y en a plusieurs de régionalisation. Alors la première que je vais très peu détailler ici, parce que je ne suis pas tellement spécialiste, c'est tout ce qu'on appelle les descentes en échelle par des méthodes statistiques. L'idée est de relier de manière statistique, avec une fonction de transfert un petit peu, des champs de grande échelle dans un modèle de climat, donc les champs qui sont bien représentés, par exemple la pression au niveau de la mer, et puis des échelles locales que l'on voit dans les observations. On peut par exemple prendre, alors, exemple le plus simple possible, la série de précipitations des pluies à Nîmes, et puis les champs de grande échelle d'un modèle qui représente le climat présent, on fait un lien statistique entre ces deux quantités, et donc on a le moyen dans n'importe quel modèle GIEC de relier des champs de grande échelle à de la toute petite échelle, c'est-à-dire toute la série de précipitations sur Nîmes par exemple. Donc en faisant ces liens statistiques, on crée une fonction de transfert, on fait l'hypothèse qu'elle est valable dans le climat futur, donc c'est là la grosse hypothèse des méthodes statistiques, et on l'applique au champ de grande échelle des modèles du GIEC, et donc on peut obtenir des résultats au niveau régional. Donc une autre hypothèse, c'est aussi il nous faut des données en entrée pour que la méthode statistique apprenne le lien entre grande échelle et petite échelle. Ensuite, il y a les modèles, les GCM à maille variable, donc par exemple Arpège Climat, on a vu l'image très rapidement tout à l'heure dans le talk de Chevert, et donc on a un modèle qui est global et qui est zoomé. Donc là, on a un point bleu par point de grille, et donc on étire sa grille pour qu'il soit à basse résolution très loin, là où en fait on s'en fout un petit peu, sur la Nouvelle-Zélande, et puis à haute résolution sur notre zone d'intérêt, Europe dans ce cas-là. On pourrait mettre le pôle ailleurs. Donc ce modèle-là, Arpège Climat, c'est un modèle de Météo France, et il y en a deux ou trois sur la planète qui ont le même type de grille étirable. Ensuite, un autre type de modèle qui est beaucoup plus commun à beaucoup de centres dans le monde, c'est les modèles à air limité, type celui-ci. Donc là, c'est Aladdin Climat, ça c'est aussi le modèle de météo, mais il y en a d'autres de ce type-là. Et voilà la zone sur laquelle on travaille. Donc dans ce cas-là, on utilise des GCM type GIEC pour forcer au bord ce type-là de modèle sur une zone à plus haute résolution. Bon, évidemment, il y a aussi toutes les méthodes mixtes. Alors, comme la puissance de calcul n'est pas plus importante pour les gens qui font du régional que pour les gens qui font du global, si on veut calculer plus finement ici en termes de points de grille dans un modèle de climat régional, il faut qu'on enlève des éléments à des modèles type GIEC. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève l'océan la plupart du temps. Et on va donc forcer, donc on enlève soit une partie de la planète, donc là c'est celui-ci, mais aussi on enlève de toute manière l'océan et on va aller chercher dans les modèles du GIEC les anomalies de température de surface de la mer, qu'on appelle SST souvent, donc vous allez voir ça dans mes transparents, et qu'on va imposer à la surface des modèles qui sont atmosphériques seuls ou atmosphériques plus végétation. Donc comment on fait une simulation régionale? On fait d'abord une simulation GIEC, représentée par ce mot, la simulation couplée, dont les forçages sont les gaz à effet de serre et les aérosols. On peut par exemple faire toute une période de 140 ans ou même plus. On extrait de cette simulation GIEC, donc en fait une approche de modélisation en deux étapes. On extrait de ces simulations GIEC les forçages de surface, donc essentiellement la température de la mer, ou les forçages au bord quand on a un modèle à air limité, et puis on fait nos simulations régionales, qui sont à haute résolution. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Par exemple, sur le climat Europe-Méditerranée, donc c'est des figures tirées d'un projet européen d'intercomparaison qui s'est terminé en 2004, pour l'hiver et pour l'été, là c'est un seul modèle, scénario à deux, les différences entre la fin du 21e siècle et la fin du 20e siècle, pour la température à 2 mètres. Donc ici, on retrouve en fait le gradient est-ouest qu'on voyait dans le modèle du GIEC, mais on va l'obtenir avec une résolution plus importante et puis un détail qui nous permet d'aller voir d'un peu plus près les différentes îles ou les différents pays. Mais bon, l'essentiel, c'est que ce message qu'on voyait dans les modèles du GIEC se retrouve dans les modèles régionaux, c'est-à-dire un gradient est-ouest, expliqué par la physique des modèles en hiver, et un gradient nord-sud, toujours expliqué par la physique des modèles en été. Sur les précipitations, voilà d'autres exemples. Donc on a vu tout à l'heure un zoom de ces cartes-là sur la France. Augmentation des précipitations en bleu en hiver, relativement généralisée, et diminution en été, également relativement généralisée. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment quelle partie de ce signal-là est robuste à l'échelle régionale. Donc pour ça, je suis allé chercher le même, c'est exactement le même modèle et le même scénario, mais pour une période différente. Ici, c'était 2070-2099. Là, c'est un peu plus proche, on va dire. C'est 20 ans autour de 2050, moins 20 ans toujours en climat présent. Et j'ai zoomé sur une zone plus grande, incluant la Méditerranée et une grosse partie de l'Europe. On retrouve le même type de signal, c'est-à-dire un réchauffement plus important à l'est qu'à l'ouest en hiver et plus important au sud qu'au nord en été, mais les valeurs sont différentes. Tout à l'heure, on avait du 4-5 degrés et maintenant, on s'arrête à du 1,5 degré, voilà cette isoline qui coupe la France au milieu, ou ici 2,5 degrés en été. Donc, il faut toujours avoir cette notion d'échéance, de quand est-ce réchauffement climatique, oui, signal, oui, mais quand est-ce qu'on parle. Et sur les précipitations, on voit en fait qu'autour de 2050, on a un signal qui est beaucoup moins net, avec... OK, une augmentation des précipitations, mais le pattern n'est pas du tout aussi lisse et aussi net que ce qu'on a à la fin du 21e siècle. Donc c'est toujours, ça c'est assez évident quand on regarde des résultats de changement climatique. À la fin du 21e siècle, on a un clair signal en précipitation et en température. Par contre, au milieu du siècle, le signal est net en température, mais pas encore en précipitation. Et on voit aussi que l'assèchement en été pour les précipitations, il est quand même nettement moins marqué autour de 2050. Donc réchauffement d'abord et ensuite... signal sur les précipitations. Alors ensuite, j'ai pris un autre modèle du même projet. En fait, c'était un projet européen d'intercomparaison. Donc, c'est un modèle italien qui est lui à R limité. Donc, vous le voyez puisqu'il s'arrête là, il n'est pas zoomé. Et on voit que les valeurs ne vont pas être les mêmes que sur la carte que je vous ai montrée de transparent avant. Mais par contre, on garde la même structure, c'est-à-dire est-ouest en hiver et puis nord-sud en été. Donc, ce que je vais essayer de vous faire voir, c'est que on a regardé plein de modèles différents comme ça, forcés de manière différente. Et à l'échelle de l'Europe, on a quand même beaucoup de certitudes sur ces patterns spatiales-là en termes de résultats. Et en termes de précipitations, on retrouve une augmentation des précipitations qui est plus nette puisque c'est la fin du 21e siècle et puis une diminution en été, donc augmentation en hiver, diminution en été. Le gros problème, c'est de savoir où va passer cette ligne-là, la ligne entre l'augmentation des précipitations au nord, la diminution au sud, qui est vraiment pas très nette en hiver ou à l'échelle annuelle. Ensuite, si je veux passer à la problématique des changements climatiques en France, regardez un petit peu plus près. Alors, je vais essayer de... Ah oui, je vais faire un petit peu de validation. Donc, en France, on a un très bon réseau de données. Donc, ça nous permet de tracer une carte observée relativement homogène. Elle est lissée, bien sûr, par rapport aux stations qui nous ont servi au départ. Mais elle permet de comparer, pour, par exemple, 30 ans de climat présent, ce qui est observé et ce qui est simulé. Alors là, il y a des gens qui sont très contents et puis il y a des gens qui ne sont pas très contents. Donc, vous avez le droit de vous classer dans l'une ou l'autre catégorie. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ça, c'est vraiment bien. Il y a très peu de modèles qui sont capables d'arriver à représenter aussi bien des observations à cette échelle-là. Je ne vous ai pas mis la carte d'un modèle du GIEC, par exemple. Donc, on a la structure spatiale, on a à peu près les bonnes valeurs. Par contre, c'est sûr qu'il nous manque des structures fines encore. On n'est pas au top. Donc, une des activités dans les équipes de recherche en climat, c'est d'améliorer cette carte-là. Et donc, ça se fait, mais c'est dur et c'est très long. Parce qu'un modèle de climat, c'est relativement compliqué. Pour les précipitations, on a le même type de carte. Simuler, observer. Donc là encore, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est pas mal, vous avez la bonne structure est-ouest, les maximums près du sud-ouest. » Mais bon, par contre, on n'est pas assez intense. Alors ensuite, la grosse question, c'est de savoir on accepte ça ou on le corrige. Alors quand on va parler du changement climatique en moyenne, on va vouloir, donner des résultats sur l'augmentation de température ou l'augmentation de précipitation. On peut estimer que les défauts qu'on a dans ces cartes-là ou dans la carte d'avant, c'est des défauts qu'on a autant dans le présent que dans le futur. Et dans ce cas-là, quand on va faire la différence entre fin du climat, climat fin du 21e siècle et climat fin du 20e, ces défauts du modèle vont s'annuler et on va montrer des cartes de différence. C'est ce qu'on vous montre régulièrement. Pour les extrêmes, on verra à la fin de mon talk que ce n'est pas aussi évident que ça. Bon, jusque-là, je peux très bien vous montrer des résultats. Donc, une autre manière de valider, c'est une série temporelle. Donc là, je vous ai montré des cartes spatiales. Là, on a une série temporelle observée. Des températures moyennes d'été en France, donc on voit très bien 2003. Donc c'est pour montrer que 2003 est vraiment une année exceptionnelle dans les séries observées. Et voilà ce qu'on simule, avec le modèle étiré. Donc en gros, là j'ai corrigé les défauts du modèle en termes de dérive, enfin de biais, pardon. Et donc si on regarde juste avant 2000, cette partie-là rouge, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en gros la variabilité interannuelle qui est réel dans le climat présent, c'est-à-dire qu'on a bien des étés chauds, des étés froids, est bien représenté dans le modèle. Il fait autant d'étés chauds que ce qu'il devrait, autant d'étés froids. Et ensuite, on voit que le changement climatique, ce n'est pas une pente, c'est une pente plus une variabilité interannuelle qui reste forte. Donc on aura toujours des étés froids et des étés chauds, mais la moyenne de ces étés-là va augmenter. Et entre autres, une des choses qu'il faut souligner là, c'est que l'été 2003, ce n'est pas un signe du changement climatique. Mais par contre, ça peut être utilisé de manière pédagogique pour dire un été 2003, ben, ça pourrait être, dans ce scénario-là, hein, qui est un scénario A2, donc relativement pessimiste, un été moyen à partir des années, je sais pas, en gros, 2060. Quoi. Donc c'est comme ça qu'on utilise 2003 et on ne l'utilise jamais comme étant dire « Ah, ça c'est le signe que le changement climatique est arrivé. » Voilà. Donc ensuite, je reviens sur les résultats à partir de cartes sur la France. Donc toujours pour le scénario A2. Alors par rapport aux présentations que vous avez dû voir jusque-là, maintenant j'indique d'où viennent les SST, donc les températures de la mer, qui viennent d'un modèle du CNRS. Puisque bien sûr, puisque j'ai plus d'océan interactif, il faut que je fournisse des anomalies de température de la mer, qui est un des forçages majeurs du changement climatique. Et donc voilà ce qu'on obtient à la fin du 21e siècle comme carte de réchauffement. Donc en jaune, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, mais en gros c'est entre 2 et 3 degrés. Et puis cette couleur rose c'est 3, 4, 5. Et puis au-delà de 5 degrés en rouge très foncé. Donc on voit un réchauffement qui est plus important en été qu'en hiver, avec des saisons de transition printemps et automne, un réchauffement plus important en automne, dans ce scénario-là. Donc je pourrais vous annoncer des chiffres comme ça, mais j'aime bien vous montrer les incertitudes qu'il y a à cette échelle-là au niveau des cartes. Donc j'ai repris, ça c'est exactement les... Je reprends ces deux cartes-là que je garde, avec le scénario A2, et à côté je colle deux cartes pour le scénario B2. C'est exactement le même modèle, la seule chose qu'on a changé, c'est la manière de faire évoluer le climat et à travers la consommation d'énergie fossile. Et donc ce qu'on obtient, c'est qu'on a une structure spatiale qui est assez proche en fait, donc ça c'est vraiment intéressant. Par contre, l'intensité est moins importante. Ça permet de montrer de manière très pédagogique, voilà, si la planète continue à consommer du carbone fossile sur un A2, on va vers ça, et si on fait des efforts et qu'on va vers du B2, on va vers ça. Voilà. Parce qu'actuellement, on est plutôt sur une pente A2 telle qu'on a démarré la consommation au 21e siècle. Voilà, donc on peut comparer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, la manière dont c'est réparti spatialement est assez semblable. Et donc ça pourrait permettre, par exemple, de ne faire tourner que ce scénario-là et puis d'essayer de trouver une fonction d'interpolation entre les deux, si on avait moins de puissance de calcul. Ensuite, j'ai essayé aussi de vous montrer, donc en gardant cette fois-ci un scénario à deux, les différences si on change les SST. Donc là, j'avais des SST qui venaient d'un des deux modèles français, et puis ici, des SST qui viennent du modèle anglais, du Hadley Center. Et donc voilà l'impact que j'ai, toujours à la fin du 21e siècle, pour le même scénario. Et donc là encore, on voit qu'il y a des incertitudes, mais qu'elles sont nettement moins grandes. Heureusement, parce qu'on espère que quand même le choix du scénario a un impact plus important sur l'élévation de température que juste le choix entre un modèle du GIEC ou un autre pour les SST. Voilà, donc, mais par contre, c'est clair que même pour un scénario donné et pour une période de temps quand même relativement grande, donc qui lisse les effets, si je prends un point au hasard en France, un chiffre de changement climatique, d'élévation de niveau de la température, ne vaut rien à 1 degré près. Quoi. Parce qu'il n'y a pas de raison de choisir entre CSST qui viennent du CNRM et CSST du Hadley Center. C'est une gamme d'incertitudes. Pour les précipitations, on peut faire un petit peu la même chose. Donc en hiver, augmentation des précipitations relativement partout, même si l'échelle de couleur les montre que sur le nord de la France. En été, assèchement généralisé, enfin diminution des précipitations. Et puis les deux autres saisons sont plutôt vers l'assèchement, ce qui fait qu'en moyenne annuelle en France, on va plutôt vers moins de précipitations que vers plus de précipitations en moyenne annuelle dans ce modèle-là. Si on change de scénario, dans le B2, on a une figure un petit peu différente. On garde la structure saisonnière, c'est-à-dire plus de précipitations en hiver et moins de précipitations en été, mais on voit quand même qu'on a un changement non négligeable des cartes. Donc ça, c'est important. En gros, c'est de toute façon, quelque chose à retenir, c'est que les précipitations ne changent jamais de manière aussi jolie que les températures, aussi prédictible, en tout cas. Et si on change de SST, ben là encore, on voit que l'incertitude est plus faible, mais tout de même, on a, si on s'intéresse vraiment à un point au milieu de la France, il est clair qu'on ne peut pas se permettre de n'utiliser qu'un seul scénario, il faut une gamme de scénarios pour pouvoir un petit peu prendre en compte les incertitudes, même à l'échelle régionale. Alors ensuite, il y a tout le problème des extrêmes. Alors les extrêmes, ben, on peut les voir comme ça. Donc c'est en gros une distribution de probabilité au présent et puis une autre distribution de probabilité au futur, en jaune ici. Ça peut être n'importe quel paramètre, la température, les précipitations ou n'importe quoi d'autre. Et puis ici, la fréquence à laquelle un seuil de température ou de précipitation arrive. Donc ensuite, il y a deux manières de le présenter. On peut essayer de se dire, bon ben, pour une fréquence donnée, comment varie mon seuil, c'est-à-dire le jour chaud qui va arriver une fois sur 5, est-ce qu'il varie, il passe de 15 degrés à 17 degrés ou 15 degrés à 18 degrés. Mais l'autre manière de voir, elle est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire pour un seuil donné, c'est-à-dire est-ce que j'ai des températures qui dépassent 35 degrés, quelle est la fréquence de ce genre d'événement-là en été, par exemple. Et ça, on peut le comprendre dans des implications type santé. L'humain va être très sensible à partir d'une certaine température, comme l'été 2003 nous l'a montré, par exemple température minimale pendant la nuit. Bon, bah, quelle est la fréquence, quelle est l'augmentation de fréquence ou la diminution de fréquence de ce genre d'événement? Donc ça, c'est relativement important. De même, la température de gel, ça va être assez important de savoir comment va évoluer le nombre de jours de gel, donc pour un seuil fixé en termes de fréquence. Alors, pour les observations, ben, on a 50 ans disponibles, pas plus, pour les séries quotidiennes. Donc vraiment pour être capable de construire des distributions d'événements à l'échelle quotidienne. Par contre, pour les modèles, donc, bon, on ne pourra pas aller plus loin que ça pour les observations. Ce qui veut dire qu'entre autres, lorsqu'on va vouloir regarder des événements extrêmes, un événement extrême c'est bien, mais il faut quand même qu'il ait une certaine stabilité statistique. Donc on ne va pas pouvoir regarder des événements de durée de retour centenaire. Il faudra qu'on ait des événements qui se sont quand même passés plusieurs fois dans les 50 dernières années si on veut pouvoir dire quelque chose. Surtout si on travaille à l'échelle quotidienne. Pour les simulations, pour les modèles, c'est un petit peu différent puisqu'on peut les faire tourner aussi souvent qu'on veut sur le climat présent et aussi longtemps qu'on veut en climat futur. Et donc, on peut construire des séries relativement longues qui vont nous donner une certaine stabilité statistique dans nos résultats. Par contre, en termes de distribution, si on compare modèles et données comme je vais le faire au transparent d'après, on a des défauts. Et donc, il va falloir s'occuper de ces défauts-là. Parce qu'il y a très peu de chances pour les extrêmes qu'en faisant juste la différence entre ce qui se passe en futur et ce qui se passe en présent, on annule les défauts du modèle de manière linéaire. Donc voilà encore une validation, par exemple, des températures. Température maximale en été ici et température minimale en hiver sur Paris, où on a une station d'observation de longue durée et des simulations modèles. Avec les deux graphes séparés. Et voilà, en gros, la qualité de nos modèles. Alors, pour être parfait, il faudrait que... Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a, découpé en percentiles, donc les 1% des valeurs les plus faibles, puis le pourcent suivant, et ainsi de suite, jusqu'au 99e percentile, qui est le 1% d'événements le plus chaud. Donc pour être parfait, il faudrait que pour le percentile qui a une température observée de l'ordre de 20 degrés, et bien le modèle soit de la même manière. Donc il faudrait qu'on soit exactement aligné sur cette courbe-là. Bon, ce n'est pas le cas, mais pour les températures max en été, ce n'est pas si mal que ça. On a juste une... Donc on n'est pas très loin de la courbe diagonale et juste on sous-estime un petit peu les températures chaudes. Dans le modèle, il doit manquer un phénomène physique d'amplification des températures chaudes des températures maximales en été sur Paris. Donc bon, on peut se demander comment on va corriger ça. Et pour les températures froides en hiver, ben c'est un peu plus grave, c'est-à-dire qu'on est très bon jusqu'à 0 degré, mais pour les températures très froides, on sous-estime. Le modèle n'est pas capable de faire des températures extrêmement froides comme on peut le voir dans les observations. Alors, il y aurait différentes techniques de correction. Là, ce qu'on a fait ici, décidé d'appliquer, c'est pour chaque percentile, on a construit une fonction qui ramène les données modèles aux données observation. Donc, en gros, on va corriger toutes les classes de température et puis après de précipitation pour qu'elles ressemblent exactement à celles des observations et donc pour pouvoir corriger les informations qu'on va donner sur le changement climatique a posteriori. Alors, pour les précipitations, comme d'habitude, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc en été ici, puis en hiver ici, données modèles, données observations, là on sous-estime les précipitations fortes en été dans ce modèle-là et on les surestime en hiver ici. En effet, si on prend une valeur de l'ordre de 15 mm par jour dans le modèle, eh ben, on n'est qu'à 10 mm par jour dans les observations. Donc on va créer une fonction qui corrige pour ramener chacun des points sur la diagonale et ensuite on va exprimer climat présent, climat futur. Donc voilà le type de résultat qui fait peur. D'habitude, je masque cette carte-là. C'est le nombre de jours par an avec une température maximum supérieure à 35 degrés. C'est un scénario A2, je ne l'ai pas marqué. C'est un seul modèle régional, donc il y a des incertitudes autour de ça. Le scénario A2 est un des plus pessimistes, mais voilà quand même ce qu'on obtient. Donc en climat présent, on a en gros très peu de jours avec une température maximum supérieure à 35 degrés, en moyenne sur 30 ans. Là, on a une valeur de l'ordre de 1 à 2 jours sur cette zone-là. Et par contre, donc ça, comme ça a été corrigé, c'est la carte observée, quoi. C'est vraiment quasiment la carte observée. L'avantage, c'est qu'on peut aussi corriger. Si on avait 10 modèles, on pourrait corriger les 10 modèles de la même manière et du coup, on aurait des résultats assez, relativement fiables puisque basés sur la même référence. Et là, on obtient des valeurs de l'ordre 10-20 jours de température maximum supérieure à 35 degrés à la fin du 21e siècle. Donc, c'est relativement important. Ça dépend, ensuite, ce résultat-là dépend de la manière dont l'humanité va se comporter et puis de l'échéance à laquelle on regarde, mais ce genre de résultat quand même existe. Et ce n'est pas que dans un seul modèle, je veux dire, c'est dans d'autres modèles également. Ensuite, on a regardé le nombre de jours de canicule estivale par an. Alors, c'est un indice un petit peu plus. Parce que pour une canicule, on pourrait très bien prendre ça comme indice, mais ce qu'on s'est aperçu en 2003, c'est qu'en fait, ce qui était vraiment pénalisant pour les gens, ce n'était pas le fait d'avoir un jour de température très chaude, c'est d'en avoir plusieurs de température très chaude, donc, et au-dessus de la normale. Donc, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a compté à partir du moment où on avait au moins 6 jours consécutifs avec une anomalie de température supérieure à 5 degrés de la moyenne à laquelle on est habitué. Et je vous ai séparé ça par tranche de 10 ans. Donc en gros, c'est 10 ans autour de 1950, 10 ans autour de 1965. Donc en gros, ça, c'est une série plus ou moins climat présent où on voit entre autres que ça varie. C'est-à-dire qu'on peut avoir la zone qui est marquée, la première isoline, elle est à 3 jours de canicule estivale par an. En gros, ça veut dire qu'on a soit 6, 7 ou 8 jours, soit 3 périodes de canicule. Bon, ben ça varie d'une décennie à l'autre. C'est la variabilité naturelle du climat. Et ensuite, on peut continuer dans le futur avec les scénarios 2005, 2015, 2025, 2035, 2045, avec le A2. Donc là, ça permet de comparer les différents scénarios et de voir également que on peut pas prendre une période de 10 ans comme ça au hasard en climat, puisqu'on peut très bien avoir un peu moins de canicule avant, un petit peu moins après, et puis des périodes plus importantes. Donc on va voir que c'est à la fin du 21e siècle que le signal devient beaucoup plus net. Là, il est encore très oscillant. Et d'ailleurs, les trois scénarios se séparent assez peu. Ça, c'est une chose à retenir, c'est que les différents scénarios du GIEC commencent à diverger très nettement à partir de 2050. Bon, et là, on arrive à ce genre de valeurs. Alors là, j'avais des valeurs de l'ordre de 10 jours de canicule par été dans les années 2025, 2035, 2045. Et vers la fin du XXe siècle, on obtient des couleurs beaucoup plus sombres, donc 30 jours de canicule, 40 jours de canicule. Donc ça veut dire beaucoup de jours de canicule dans un été, hein, puisque c'est évidemment c'est sur les 90 jours d'été. Donc c'est extrêmement important. Et c'est évidemment 5 degrés d'anomalie par rapport au climat actuel, c'est-à-dire au climat que les gens sont capables de supporter actuellement, localement, dans leur région d'origine. C'est sûr que si en plus il y a des gens qui déménagent de Lille pour aller dans le sud de la France, ça va faire encore plus de degrés pour eux. Ensuite, on a calculé d'autres types d'indices extrêmes, parce que, ok, la chaleur c'est un point important, mais l'autre chose qui risque de toucher la France, c'est la partie sécheresse. Donc là, c'est le nombre maximal de jours secs consécutifs en été, en gros une vague de sécheresse. Donc c'est des indices qui avaient été calculés dans des projets, donc un projet français, IMFREX, que vous pouvez retrouver sur internet par exemple. Voilà à quoi ressemble le climat actuellement, donc toujours sur une moyenne d'environ 30 ans pour les jours d'été. Et corrigé. Donc ça ressemble vraiment énormément à la carte observée. C'est le nombre de jours secs consécutifs. Donc on retrouve les lieux de villégiature de l'été. En gros, c'est très sympa d'être là en vacances parce qu'il fait sec. On ne va pas prendre de pluie quand on est en camping. Et dans la carte classique, et voilà ce à quoi on peut s'attendre en climat futur, passer de l'ordre de 20 jours secs consécutifs à 30 jours secs consécutifs. Donc après, à partir de ce genre de carte, on peut évidemment, il y a les touristes d'un côté et puis les agriculteurs de l'autre qui n'ont pas du tout la même manière de gérer ou d'appréhender ce genre de risque. Voilà donc ce qu'on peut sortir maintenant à partir de nos climats régionaux sur les extrêmes. Dernier résultat sur le nombre de jours par an avec des précipitations supérieures à 20 mm par jour. Donc ce n'est pas des pluies extrêmes, mais c'est quand même des pluies relativement fortes. Donc c'est une des questions importantes, ça, en changement climatique, est-ce qu'on va avoir plus de pluies fortes ou moins de pluies fortes? Donc en fait, ça dépend énormément de les saisons. Donc là, hiver, printemps, et puis derrière, j'ai l'été et l'automne. Les résultats ne sont pas hyper importants. Le changement est relativement faible, mais il est positif en hiver, c'est-à-dire plutôt plus de pluies fortes en hiver, et plutôt un petit peu plus au printemps. Et par contre, si on passe en été, on a plutôt moins de précipitations fortes. Il faut dire que comme toute la France s'est asséchée, c'est plus dur de faire des précipitations très fortes dans un climat où il pleut quand même moins, même si l'atmosphère peut contenir plus d'humidité. Donc a priori, moins de précipitations fortes en été et plus de précipitations fortes en automne. Donc là, je n'ai pas d'autres résultats de modèles ou de vraies barres d'incertitude à vous montrer là-dessus, mais c'est ce qu'on essaye de mettre en place en ce moment dans des projets qui ne sont pas du tout à l'échelle nationale, mais vraiment à l'échelle européenne, pour que chaque pays qui utilise des modèles régionaux participe à des exercices d'intercomparaison pour qu'on puisse mettre des barres d'erreur autour de ces valeurs-là, quoi. Parce que par exemple, ça, je peux pas dire à un décideur, bon ben voilà, le jour de canicule, le nombre de jours de canicule en été, ça sera ça en 2095, si je viens avec un seul modèle. Ça serait tromper sur la marchandise, on va dire. Voilà. Donc sur les incertitudes, justement, je voudrais juste mettre au point certaines choses. C'est-à-dire que les incertitudes dans les modèles globaux, c'est le choix du scénario, le choix d'un modèle global parmi les autres, et puis des choix internes au modèle global, c'est-à-dire des choix de modélisation, c'est-à-dire est-ce qu'on rajoute certains éléments dans le modèle global, du carbone interactif, une végétation interactive, un océan plus fine résolution, ou des choix de physique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on modélise les nuages dans un modèle particulier. Bon, en régional, on a les mêmes incertitudes, c'est-à-dire on hérite de celles des modèles globaux, puisqu'on utilise soit leur forçage au bord, soit les anomalies de température de la mer qu'ils ont créées eux-mêmes dans les scénarios. Et en plus de ça, on ajoute le choix du modèle régional, donc le choix de la température de la surface de la mer, mais qui est en fait un peu lié au premier quand même. Et puis, quand on a des modèles à air limité, pour un modèle à air limité donné, si on le force par deux modèles globaux différents, il peut avoir des résultats différents. Donc on se rajoute des incertitudes. Et actuellement, on a un problème important, c'est que le coût numérique de ces modèles régionaux est nettement plus... Enfin, soit plus important, oui, relativement important par rapport aux modèles globaux. Et en plus, on n'a pas la même gamme d'incertitudes, on a élargi cette gamme d'incertitudes. Et donc, pour l'instant, avec la puissance de calcul qu'on a, c'est quasiment impossible d'évaluer de manière complètement exhaustive toute la gamme d'incertitudes. Donc, on est un petit peu face à un problème où on est coincé. Et donc, il reste des méthodes à inventer. Donc, la recherche en est un peu là, dans ce domaine-là. Avec, par exemple, pourquoi pas combiner les résultats sur les incertitudes des modèles du GIEC et les modèles régionaux, ou se tourner de manière beaucoup plus forte vers des méthodes statistiques qui sont moins coûteuses et qui permettent d'attaquer une gamme d'incertitudes beaucoup plus large. Donc là, j'ai juste une image pour vous illustrer ça. Oui, j'ai le temps. Donc c'est en moyenne sur la France, donc c'est un chercheur, là, Laurent Terret du CERFAX, qui m'a donné cette image-là, pour différentes périodes, donc en gros une moyenne autour des années 2020, une moyenne autour des années 2050, une moyenne autour de 2100, pour hiver et été, et qui met en regard les échelles d'incertitude du GIEC et les échelles d'incertitude des modèles régionaux. Donc si on prend par exemple l'hiver, pour commencer, la gamme d'incertitude du GIEC, c'est les petites figures à barbules, là, en bleu et en rouge pour l'été, où on a la médiane, c'est la barre. Ici, on a 80%, donc je vous rappelle, il y a 21 modèles dans le GIEC. C'est pour le scénario A1B, c'est pas marqué, mais c'est le scénario A1B. Ici, on a la zone d'incertitude du réchauffement pour la France, en passant de, en gros, pardon, la gamme entre 20% et 80% des modèles sont là, donc il y a 60% des modèles sont dans cette barre-là. Et ici, on a le modèle le plus froid et le modèle le plus chaud. Et ensuite, dans cette gamme d'incertitudes du GIEC, on est allé prendre un modèle, celui qui est marqué par la croix, donc qui fait partie évidemment de la gamme d'incertitudes, pour prendre ces températures de la mer, et on a simulé 4 fois le modèle, la France avec le modèle régional, et c'est les 4 points, donc point violet, point orange, vert et rouge. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en hiver, pardon, j'ai oublié de vous préciser, le point blanc là, c'est la moyenne des 4 régionales. Donc en gros, on peut essayer de comparer, donc ce point blanc, si le climat simulé par le modèle régional n'était pas différent de celui du modèle global qui lui a servi à lui forcer les SST, ces deux points-là seraient confondus. Et c'est le cas en hiver. Donc ici, ici et ici. Et ensuite, quand on simule 4 fois le climat avec le modèle régional, et ben on est un petit peu dispersé autour de la valeur moyenne, mais rien de grave, et on est la plupart du temps dans la gamme d'erreurs donnée déjà par les modèles du GIEC. Par contre, ce qu'on voit en été, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le modèle régional, il a en moyenne, donc la moyenne des 4 simulations, elle est plus chaude que son modèle forceur. Donc c'est très vrai au début du siècle et de moins en moins vrai à la fin du siècle. Donc ici, on avait le modèle du GIEC, la croix était relativement chaud par rapport aux autres modèles du GIEC. Bon, bah, les modèles régionaux se trouvent autour, c'est correct. Mais ici, dans les étapes intermédiaires, on illustre que les modèles régionaux ont tendance à être plus chauds que leur modèle forceur. Et donc c'est vrai que ça rend très compliqué le problème des incertitudes. Parce que ce qu'il faudrait, c'est faire des petits points là pour les 21 modèles du GIEC dans la barre globale. Donc là, ça commence à devenir très compliqué. Voilà, donc ça, c'est juste une illustration de gens qui commencent à essayer de synthétiser tous les problèmes d'incertitude pour une région telle que la France. Donc en conclusion, je veux juste vous rappeler ce qui est à peu près probable ou très probable sur les résultats du changement climatique, et puis ensuite ce qu'on ne sait pas vraiment. Donc ce qui est probable ou très probable, c'est que le réchauffement sera plus fort sur Terre que sur mer. Que ce réchauffement sera plus fort en été qu'en hiver. Alors, probable ou très probable, parce qu'il y a beaucoup de modèles qui le disent, tant à l'échelle globale qu'à l'échelle locale. Et en plus, on a les explications physiques. Donc là, ça rend relativement robuste les conclusions. En été, ce réchauffement sera a priori plus fort au sud de l'Europe ou au sud de la France qu'au nord de l'Europe ou qu'au nord de la France. En hiver, le réchauffement sera plus fort à l'est qu'à l'ouest. Pareil, Europe ou France, c'est à peu près la même chose. On s'attend à moins de pluie au sud de l'Europe et de la France, pour le bassin méditerranéen, qu'actuellement, en particulier l'été, même si c'est vrai à l'échelle annuelle, et plus de pluie au nord de l'Europe et de la France. Une diminution du nombre de jours et de gel et de neige, donc ça c'est relativement attendu, on va dire. Des vagues de chaleur qui seraient plus fréquentes, plus longues et plus intenses en été, le problème est de savoir quantifier ça. Plus de pluie intense en hiver, a priori, et des sécheresses plus longues en été. Donc ça, c'est des résultats dont on est à peu près sûr et qu'on retrouve avec des probables ou très probables dans le rapport du GIEC. Donc c'est trouvé dans d'autres modèles, en tout cas. Et ce qu'on ne sait pas, donc il y a très clairement le problème de la ligne de démarcation entre plus de pluie et moins de pluie en Europe et en France, ça c'est vraiment très incertain. L'évolution sur les vents forts, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment une modélisation des vents de surface dans les modèles qui nous permettent de répondre à ces questions-là. On a un autre point qui nous intéresse énormément, parce qu'il a fort impact sociétal et sur les gens qui habitent dans ces régions-là, c'est les pluies diluviennes ou pluies intenses du sud-est de la France, qu'on appelle aussi souvent événements cévenols, et qui vont ravager des départements comme le Gard, ou puis tous les départements le long des Cévennes, mais aussi les Pyrénées-Orientales. Donc là, en gros, le problème, c'est que ces pluies-là, elles dépendent de phénomènes physiques qui sont à extrêmement petite échelle, et donc les modèles de climat, même régionaux à 50 km, ne sont pas capables de les représenter correctement. Donc on est en train d'essayer de trouver des méthodes mixtes, statistico-dynamiques, qui nous permettent d'aller à plus fine échelle et de commencer à donner des réponses sur ces questions-là. Et puis ce qu'on ne sait pas, c'est comment, pas évaluer, mais comment bien évaluer les incertitudes en climat régional. Voilà. Et j'ai un dernier transparent, juste pour vous dire qu'en ce moment, il y a vraiment de quoi trouver des infos sur Internet. En français vulgarisé, il y a beaucoup de hors-séries, relativement bien faits, avec un S, qui sont sortis dans les deux dernières années, en gros. Il y en a un dans la recherche, pour la science, il y en a un très récent dans Sciences et Vie qui est pas mal. Il y a eu même des numéros spéciaux de Courrier International, donc qui vous donnent une vision un peu plus internationale, qui sont relativement bien faits. Dernièrement, Sciences et Vie, avec son hors-série, a mis en place un site qui est pas mal du tout et dans lequel on peut trouver des séries de données régionales sur la France. Il y a le site web de l'ONR qui avait fait un petit peu la même chose que Sciences et Vie avant ça, mais je n'ai pas retrouvé l'adresse du site, donc il faudrait que je vous la retrouve. Il y a le site de Jean-Marc Jancovici qui, à mon avis, est à conseiller. Et donc là, ça reste vulgarisé quand même. Et ensuite, en français, il y a le site de projet type projet IMFREX dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, il y a le site du groupe climat du CNRM. Il y a le site du CERFAX, mais qui est mentionné aussi sur le site de l'INRP. Et en anglais, le GIEC. Et puis, des projets qui ont traité de régional et d'extrême, qui sont Prudence, Tardex, Mice, Ensemble, Circé, que vous pouvez retrouver dans Google et sur lesquels vous pouvez trouver des informations un petit peu plus spécifiques. Et sinon, il y a une initiative qui est pas mal, qui est realclimate.org, mais qui n'est pas vraiment du régional. Je vous laisserai découvrir après. Voilà.